À l'origine, le sujet, c'était vraiment Franquin. Et puis, j'ai débarqué à Nice à 23h et j'arrive dans cette maison. Oula, oula, Numa Sadoul. Alors déjà, c'était Numa Sadoul, avec tout l'aura qu'on peut imaginer. Puis j'arrive dans cette maison, je me dis, mais waouh, quel homme! Enfin, quel est ce type qui vit ici? Et donc, le lendemain, à 8h, on a pris commencé à discuter. Enfin, on avait déjà commencé la veille, mais en petit déjeuner, on parle. On était encore en pyjama. La conversation avait commencé. Et puis, il y avait tellement de choses à raconter dans la conversation. Il me parlait de plein de choses qui s'éloignaient de Franquin. Et j'ai suivi les conseils de Régis. Laisse-toi faire. Tu sais où tu veux aller. Tu sais ce que tu as à raconter. Alors, ne te prive pas de tout ce qui se présente, tout ce qui s'offre à toi en chemin. Et donc, c'était presque même faire offense à Numa que de ne pas poser des questions sur son parcours, sur ce qu'il avait fait, sur ses envies, sur lui, etc. Je serais passée à côté du sujet. Vraiment. Parce qu'il y a plein de choses à apprendre d'un homme qui a eu ce parcours-là, voilà, sur la liberté. Malgré ce parcours-là, c'est un homme révolté et avec des fragilités qui, à 77 ans, continue de les exposer. Toute la série de photos qui est au début dans l'intro, justement, où on le voit se tenir la tête et rire en même temps et être complètement hilar. En fait, j'étais en train de lui lire un courrier qu'il avait écrit à Jacques Glénat en 71. Et c'était sacrément bien troussé. Et en même temps, c'était culotté, c'était vraiment parfois très, très limite. Et puis, il disait, mais quel con, mais pourquoi j'ai écrit ça? Mais j'ai écrit ça, t'es sûr? Et il n'est pas dans une posture. À un moment, le livre était fini, maquetté. Je revais chez lui pour à la recherche d'autres choses, etc. Et puis, la conversation démarre sur un nouveau truc. Ah la vache! Non, mais ça, on ne peut pas, quoi. Il faut absolument qu'on en parle dans le livre. J'ai un pan qu'on a oublié. Donc, je rappuie sur le bouton de l'enregistreur. À un moment, je suis dit, mais j'ai l'impression que tu t'es jamais privé de rien dans ta carrière, que tu as toujours été libre. Et il me répond, mais Christelle, j'étais le fils du gouverneur. Donc, j'ai été élevée avec l'habitude que rien ne me soit refusé. Et si j'avais eu un mauvais fond, je serais devenue une ordure. Mais j'ai eu des parents qui ont veillé à ce que je ne devienne pas une ordure. Ah ouais? Oh purée, mais oui, c'est vrai, bien sûr. Et là, tu prends la dimension du parcours de cet homme qui. On montre la photo du palais du gouverneur où il a grandi à Djibouti. Mais moi, j'imaginais une demeure cossue. Mais ce n'est pas une demeure cossue dans laquelle il a grandi. C'est un palais, qui est aujourd'hui le palais présidentiel. Et là, ça remet tout en perspective. Et vous dites, ah ouais, et ce gars-là sur la scène. Quasiment à poil, ça, la scène de théâtre en 68, quasiment à poil, avec du sang partout sur lui. Il était fils de gouverneur, c'est-à-dire qu'il a carrément bifurqué, il est d'une liberté absolue. Et ses parents étaient d'une ouverture fabuleuse. Ses parents qui, quand il avait 3 ans, lui lisaient et lui achetaient des bandes dessinées. On est en 1950. Comment c'est possible qu'en 1950, un gouverneur et sa femme. Donc, on peut imaginer des personnes très, très, très ancrées dans la tradition, les institutions, etc. Et une ouverture sur la bande dessinée qui était honnie même par tout le monde.